Pauline Pucciani, Titania 4.0. Chapitre 3. Rémanence. La chambre qu'ils avaient louée pour dormir faisait à peine 3 mètres carrés. Dans un gigantesque mur desservi par des élévateurs flottants, des boxes identiques s'ouvraient ainsi, au beau milieu des halles, dans un complexe souterrain où l'on monnayait pêle-mêle des lits, des douches, des fauteuils de massage, des tapis de course. Titania entr'ouvrit la porte et le silence hermétique du box fit place à la clameur perpétuelle du forum. « Tu crois qu'il y a des gens qui vivent dans le forum des Halles sans jamais en sortir ?» demanda-t-elle à Jean. « Sûrement, » dit-il en s'habillant rapidement. Ils rassemblèrent leurs affaires en quelques minutes. Jean actionna son RV pour payer le nombre d'heures où ils avaient occupé le box 18 à 15, et ils durent attendre qu'une plateforme arrive à leur hauteur pour se glisser dessus. Ils étaient serrés avec une famille nombreuse dont les membres masculins avaient un discret pelage gris. La mère, une assez jolie femme, arborait des boucles argentées artificielles et un grand nombre de tatouages faciaux. Titania, sans y penser, la regarda d'un œil critique, puis soupira. Ils passèrent devant les shops ronrons et chuchotements, qui proposaient un fauteuil dans un environnement holographique cosy, avec un chat placide et affectueux. Ce concept étant devenu très à la mode, les prix augmentaient de jour en jour. Hier c'était 100 crédits la minute, aujourd'hui c'est 1000 crédits les 7 minutes. Encore faut-il savoir compter pour faire la différence, murmura Titania. La plupart des gens ne comptent plus. Un gros chat persan d'un blanc crémeux les invitait en se roulant sur le dos avec un miaulement engageant. Comment ils arrivent à faire ça ? Demanda Jean. Dans tous les bouquins que j'ai lus, les chats sont représentés comme des animaux indépendants. Seuls les Russes étaient capables de les dresser pour le cirque. Titania sourit, amoureuse. « J'adore quand tu me fais une leçon d'histoire. Je ne sais même pas où tu as pu apprendre tout ça. »« Sans rire, insista Jean. Regarde-le, c'est de la prostitution féline. » Titania caressa la bête sous l'œil vigilant du tenancier. « Pelage artificiel, » conclut-elle. « Ce ne sont pas des vrais, » demanda Jean. « À 2000 crédits le quart d'heure ?»« Ce sont des chats électriques, » dit Titania en riant, conçus pour combler le manque d'affection des libertons esselés. Un homme à la peau entièrement grise et aux yeux dont le blanc lui-même était noir, paya une heure d'avance et s'assit avec le gros persan. Le chat se mit à lui donner des coups de tête affectueux et à ronronner plus fort, puis il se tourna et se retourna une dizaine de fois avant de se rouler en boule sur ses genoux, les pattes avant, griffes rentrées, pressant alternativement ses cuisses en un rythme hypnotisant. Un peu plus loin, les domestibos exécutaient leur parade publicitaire, avec des hologrammes intégrés qui modifiaient les expressions de leurs visages et même les reflets sur leur corps de silicone, ils ressemblaient à des images de synthèse en 3D, expressifs et fantaisistes, comme des personnages de cartoon. Regarde le pédagogo. Les séances avec les robots professeurs étaient parmi les plus abordables. Une heure de cours ne coûtait pas plus de 50 crédits. On s'installait en face à face avec son robot qui ressemblait à une créature de jeu vidéo, et on l'écoutait débiter le cours choisi avec force éléments visuels et sonores et reconstitution holographique. L'intelligence artificielle n'était pas très développée, mais permettait quand même à l'usager de poser quelques questions. Enfin, le cours se terminait invariablement par un exercice ludique. « Si ma mère voyait ça, » murmura Jean effaré. « Je suis sûre qu'aucun pédagogo ne connaît ton histoire de chat, de russe et de cirque, » commenta Titania. Il y avait également des robots pour garder les enfants, pour cirer les chaussures, pour refaire un brushing, pour porter les paquets. Les plus grands magasins offraient même, moyennant finance, un service de commerciaux beaux qui vous accompagnait partout dans le magasin, vous orientait et commentait pour vous les différents articles. « J'aimerais prendre une douche, » dit Titania, lorsqu'ils passèrent devant les bains-douches. « Je vais t'attendre en face. » Tandis que Titania s'engageait dans le flot des travailleurs précaires et des mal-logés, principaux utilisateurs de ces installations publiques, Jean avisa un fauteuil rétractable. Le principe en était simple. Grâce à quelques crédits, le siège surgissait du sol pour une durée limitée. Jean, qui avait déjà payé la cabine, se rendit compte que son total de crédits s'amenuisait dangereusement. Mais il actionna malgré tout le fauteuil, trop fatigué pour attendre debout. Après avoir regardé autour de lui, selon son habitude, il mit sur sa tête le casque de son RV et bascula dans le réseau. Comme toujours, la transition fut un peu déconcertante. Le monde réel perdit de sa consistance et de sa couleur, tandis que le réseau passait au premier plan de ses perceptions visuelles et auditives. Il entendait encore vaguement la clameur du forum des Halles et sentait sous ses fesses le confort très relatif du siège rétractable. En cela, l'immersion était beaucoup moins forte que dans les simulations 3D. Il avait cependant changé de dimension. Il se trouvait pour le moment face à son mur, dont il avait conçu le design comme un jardin. Le mur n'était pas figuratif au sens propre, mais une foule de symboles évoquait l'idée du jardin. Couleurs vertes, taches d'ombre et de lumière, branchages frissonnant au vent, bruit d'eau et pépiments d'oiseaux. Sur ce mur, il avait agencé comme les pièces d'une sorte de maison, ses modules de base. Comme à chaque fois qu'il utilisait sa nouvelle fausse identité informatique, il fut un peu surpris par l'accueil. La voix synthétique lui souhaita la bienvenue en l'appelant par son faux nom. « Bienvenue, Gabriel. Comment allez-vous ce matin ? Aujourd'hui, sur le réseau, il fait un grand soleil et vous pourrez voir passer des rennes sauvages et des pélicans. La vitesse du flux est optimale. » Cela avait été la révolution des 10 dernières années. Le laboratoire de recherche de LEED avait mis au point un environnement virtuel pour contenir le réseau tout entier. L'alternance du jour et de la nuit y était respectée selon le fuseau horaire de chacun, et une sorte de météorologie aléatoire avait été conçue. Des événements imprévisibles, comme des averses, des étoiles filantes, des arcs-en-ciel, des aurores boréales ou des passages d'animaux sauvages, étaient programmés, rendant le réseau de plus en plus semblable à un véritable monde. Jean se plaça en vue large, et son mur lui apparut d'abord comme une petite construction parmi d'autres, puis, en prenant de la hauteur, comme un point infime dans un plan immense. C'était en vue large que l'on avait accès au programme météorologique. De fait, aujourd'hui, il faisait un grand soleil, des nuages blancs nacrés flottaient dans l'azur, traversés par les routes de l'information qu'on appelait également les flux. Ces derniers redessinaient des lignes toujours changeantes, des connexions dont certaines paraissaient immuables, d'autres mobiles comme des nuées d'oiseaux. Au loin, le paysage se modifiait à vue d'œil, des tours se construisaient, d'autres disparaissaient, selon les aléas de la mode et de la bourse. Pour naviguer dans le réseau, il y avait deux possibilités. Emprunter les flux, qui assuraient une navigation fluide, paisible, une vitesse de connexion maximum et un accès privilégié à toutes les fonctionnalités innovantes, ou bien se déplacer manuellement. Lorsqu'on utilisait un flux, on adoptait un comportement grégaire suivant les mouvements de foule des réseaunautes. On allait directement là où il se passait quelque chose, là où le buzz, génie tutélaire du réseau, avait frappé. La publicité y proliférait et les divertissements y fleurissaient comme des sucreries dans un jardin enchanté. En comparaison, le déplacement manuel évidemment paraissait bien rude. Pour s'y aventurer, mieux valait connaître les coordonnées de destination, et leur recherche était parfois fastidieuse. Les moteurs de recherche étant entièrement dédiés au commerce, les informations non marchandes étaient reléguées dans les caves du réseau. Il fallait de très solides connaissances pour parvenir à les trouver. On avait coutume de vanter la transparence totale de l'information sur le réseau, la possibilité inédite pour l'humanité d'avoir à portée de main la totalité des savoirs en accès immédiat, mais on oubliait de préciser que seuls quelques rares initiés parvenaient réellement à utiliser ainsi le réseau, l'immense majorité des réseaunautes se contentant de surfer passivement sur les autoroutes de la consommation. Jean revint en vue serrée et se concentra sur les modules de son mur. Le module domotique, pour la bonne raison qu'il était actuellement sans domicile fixe, était vide. Le module identification, contenant exclusivement de fausses données, ne l'intéressait pas. Le module travail et transaction n'était pour le moment guère sollicité, son historique était fort mince. Le module document personnel comprenait aussi bien les textes qu'il écrivait et les images qu'il avait prises que les recherches qu'il avait commencé à faire sur le Panacor, ce médicament douteux sur lequel sa mère avait enquêté avant de faire l'objet d'une enquête mortelle. Enfin, un dernier module l'attirait plus particulièrement. Il s'agissait de la rémanence de sa mère. L'icône à l'effigie de cette dernière semblait l'attendre en souriant. Il choisit d'activer la conversation et se mit aussitôt à murmurer quelques phrases presque inaudibles dans le micro intégré de son casque. Jean avait toujours connu les rémanences, ces intelligences artificielles spécialisées dans la conversation intime qui reflétaient une personnalité. L'habillage graphique était conçu à partir de toutes les photographies et vidéos que l'on pouvait fournir comme base. Il en résultait une image de synthèse animée, dotée des mêmes expressions, des mêmes intonations, des mêmes petits mouvements que la personne réelle. Le programme de conversation était conçu à partir de centaines d'heures d'études psychologiques et d'interviews enregistrées. Il fallait au moins 2 mois à temps plein pour fournir les matériaux nécessaires à une bonne rémanence. On enregistrait soi-même un certain nombre de réponses, déclenchées par des mots-clés dans les questions. Mais le programme ne s'arrêtait pas là, et comblait les manques avec un programme de conversation très sophistiqué qui allait piocher dans les lectures, les abonnements, la culture de l'individu, le matériau d'une réponse probable. Le résultat en était saisissant. On pouvait le plus souvent discuter avec une rémanence comme avec une personne réelle, et l'illusion était parfaite. La rémanence, cependant, restait comme éternellement bloquée à l'instant de sa création. Elle ne pouvait pas évoluer ni intégrer de nouvelles informations. Ainsi, lorsqu'il lui arrivait de buter mécaniquement sur un point qu'elle ne connaissait pas, elle finissait par se taire ou par changer de sujet. On en fabriquait pour toutes sortes de raisons. Titania, qui avait de multiples fois changé de corps et de style, avait constitué plusieurs rémanences de ses anciens moi. Jean aurait bien voulu les voir, mais ses programmes, comme tout ce que possédait Titania, avaient été perdus dans sa fuite. Les parents constituaient parfois des rémanences de leurs enfants jeunes, afin de conserver à jamais leur fraîcheur et leurs mots charmants. Les personnes malades, souvent, léguaient à leurs proches ce souvenir d'elles-mêmes. Et la mère de Jean, Élisabeth Corville, surnommée Olympe dans le milieu de la dissidence, lui en avait laissé une qu'il avait découverte très surpris, peu après sa mort. Se savait-elle en danger? Souhaitait-elle dissimuler dans les replis de ce complexe programme informatique des informations qui seraient utiles à son fils? Malgré son aversion pour les nouvelles technologies de la communication, elle avait consacré 2 longs mois à ce programme qui exerçait maintenant sur Jean une fascination absolue. Sa mère apparaissait sur un fond noir, légèrement pixelisé, son image tremblant imperceptiblement dans la lumière. Il en résultait une impression de distance, exactement comme sur une vidéo de communication avec Mars. « Bonjour, Jean, » lui dit-elle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle le saluait à chaque fois avec une intonation différente, du moins c'est ce qu'il semblait à Jean. Cette fois, elle paraissait soulagée de revoir son fils. Le sentiment de son absence frappa alors Jean, avec brutalité. Il avait tellement envie que ce soit vrai, qu'elle soit là pour de bon, qu'il se laissa aller sans réfléchir à cette illusion consolante. Le passé lui revenait par bouffées douloureuses et chères en même temps. C'était une douleur dont il n'avait pas envie de se départir. « Tu me manques, maman, » murmura-t-il. « Tu me manques aussi, Jean. J'avais encore tellement de choses à te montrer et à te dire. Je suis hors réseau à présent. Enfin presque. Mon pauvre petit, je n'ai jamais vécu hors réseau et je ne peux pas t'être d'une grande aide, mais sache que mes amis Danton et Robespierre auront toujours un toit pour toi en cas de danger. Je sais, maman, ça va, je me débrouille. La dernière fois, tu m'as dit que je devrais te poser des questions sur l'enquête que tu menais. Quelle enquête ? L'enquête sur le Panacor. C'est une affaire d'une extrême importance. Le Panacor est un antiviral qui a été développé par la société Hillness. Le Panacor a-t-il généré beaucoup de bénéfices pour la société Hillness? Des bénéfices énormes. En quelques semaines, l'entreprise a bouclé son chiffre d'affaires annuel grâce à ce seul médicament. Quelle maladie cet antiviral soignait-il? Le virus nommé V14, qui est apparu subitement en Europe à partir de plusieurs foyers simultanés, la première semaine du mois de novembre 2127. Son taux de mortalité était très élevé, sa contagion par voie aérienne très rapide. Il y a eu une vague de panique, des confinements, beaucoup de morts, et puis, au bout de 3 semaines, Hillness a fait savoir que leur laboratoire venait de sortir l'antidote. Le Panacor. Le Panacor, oui. Il pouvait s'administrer pour soigner les patients atteints, mais aussi et surtout pour vacciner les patients sains. Dès le lendemain de l'annonce, des centaines de milliers de vaccins furent distribués. Hillness avait déjà fabriqué le vaccin en assez grande quantité? Lors de la campagne de vaccination qui a suivi, aucun des délais habituels n'a été nécessaire. Ils ont trouvé le vaccin en 2 semaines, alors qu'il faut généralement attendre plusieurs années. Et leurs usines, comme par magie, ont pu livrer 1 million de vaccins en quelques jours. D'où le fait que le juge Malfini ait eu la puce à l'oreille. « Je ne comprends pas, Jean. Peux-tu reformuler ta question ?» Jean se souvint avec un pincement au cœur que son interlocutrice n'était qu'un programme. Il reformula. Le juge Malfini a-t-il suspecté quelque chose lorsque Hillness a fait ses bénéfices? Il n'était pas le seul. Tout le monde se disait qu'il y avait là quelque chose d'étrange, comme si Hillness avait pu prévoir l'arrivée du virus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jean. « Qu'il n'y a qu'un moyen de prévoir l'arrivée d'une épidémie, c'est de l'avoir créée soi-même, et de l'avoir répandu, exprès, depuis plusieurs foyers. Jean restait muet, frappé de stupeur. Personne d'autre que Malfini n'a cherché à faire la lumière sur l'affaire. Lui seul a osé se lancer là-dedans. Les autres n'avaient aucun intérêt à le faire. Illness est une multinationale très puissante qui sponsorise beaucoup d'organismes, de laboratoires, d'œuvres de charité, de campagnes politiques. A-t-on empêché Malfini de faire son enquête? Malgré tous les bâtons qu'on lui a mis dans les roues, il s'est montré têtu. Il est allé au bout. C'est ce que j'ai appris en faisant ma propre enquête. Comment est-il mort? Assassiné. Tout ce que tu liras sur le réseau à propos de sa mort n'est qu'une mise en scène. Par qui? Jean, je dois te mettre en garde. Cette enquête est dangereuse. Il existe un enregistrement vidéo du meurtre, du moins c'est la rumeur qui circule. Mais je n'ai jamais pu mettre la main dessus. Que t'a-t-on dit qu'on voyait sur cette vidéo? Je ne te le dirai pas, Jean, car cette information n'a pas été vérifiée. Et tant qu'elle n'est pas vérifiée, elle ne sert à rien. J'en suis exactement à ce point. Tu cherchais cette vidéo quand tu as été arrêté? Je ne sais pas de quoi tu parles, Jean. Bien sûr. Sa mère avait dû créer la rémanence quelques mois avant sa mort, et la rémanence ne pouvait rien savoir de tout ce qui était arrivé depuis. Penses-tu être surveillée par la police, maman? J'ai été approchée dernièrement par l'officier Dubreuil, mais je ne crois pas que cela soit très inquiétant. Jean comprit que « dernièrement » signifiait peu de temps avant la création de la rémanence, c'est-à-dire quelques semaines avant sa mort. Il avait envie de lui apprendre des choses à son tour, comment elle était morte et tout ce qui s'était passé depuis, comment il avait rencontré Danton et Robespierre et Titania. Mais il se rappela brutalement que la rémanence ne fonctionnait que dans un sens. Elle pouvait lui apporter des informations, des souvenirs et même de la tendresse, mais elle ne pouvait rien recevoir. L'amour de Jean pour sa mère demeurait sans destinataire, et il en serait ainsi éternellement. Il ne pourrait plus jamais rien lui donner. Il se déconnecta brusquement, le cœur battant et les yeux en feu. Le forum des Halles était toujours aussi animé. Un commerciobo aguichait quelques passants devant lui. « Monsieur, vous faites une taille 40, n'est-ce pas? Savez-vous que les chemises en écailles vertes comme celles que vous portez sont actuellement en solde à moins 50%? Madame, votre paire de chaussures motorisées est usée, et à quand remonte votre dernier achat? Voyons, l'élégance n'a pas de prix, madame. » Jean rangeait son casque dans son sac à dos lorsque son siège se rétracta sans préavis. Il jura à mi-voix. « Mademoiselle, vous avez ce que je suis tenté d'appeler du style, » continua le robot. « Manteau de fourrure et boa de plumes synthétiques, peut-être auriez-vous envie de quelques perles ou diamants pour ce nuage de blanc? La boutique Girl's Best Friends est à votre service au deuxième étage. » Jean leva les yeux en entendant le baratin du robot et sourit en voyant Titania. « Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller, » remarqua-t-elle. Elle était là et tout prit soudain une couleur plus profonde, un tour plus léger. Titania était maquillée et coiffée, un parfum frais et citronné l'enveloppait. « Te voilà presque aussi belle que dans tes vêtements de luxe, » dit Jean. « Presque ?»« Presque. »« Qu'est-ce qui t'est arrivé pour te mettre de cette humeur charmante ?»« C'est ce maudit siège rétractable, » maugréa-t-il. Titania n'était pas dupe. Elle le regarda avec un air compatissant, et un voile de tristesse rendit ses yeux violets encore plus beaux. « Je crois qu'il est l'heure de retrouver Mito, » dit-elle. Et ils se mirent en route, bras dessus, bras dessous, anonyme dans la foule bigarrée et volubile qui montait et descendait les escalators, mangeait, buvait, bavardait et dépensait continuellement sans compter les milliards de crédits qui faisaient tourner le monde.